Le Salon de l'immobilier et de l'investissement de Paris, du 8 au 10 octobre 2021, au Carrousel du Louvre, sur Radio Immo.
Bienvenue à tous, on est toujours en direct du Carrousel du Louvre à Paris pour ce Salon de l'investissement de l'immobilier du 8 au 10 octobre. On est en compagnie de Franck Noguès. Bonjour Franck.
Bonjour.
Vous êtes président de l'immobilier américain et le site éponyme l'immobilieraméricain.com puisque vous êtes spécialisé sur ces investissements, mais vous êtes à la base conseiller en gestion de patrimoine.
Exactement.
Alors présentez-nous justement l'immobilier américain.
Bien, en fait, c'est parti d'un constat très simple, hein, avec la crise des subprimes de 2008. J'ai voulu diversifier mes clients sur des actifs réels, des actifs tangibles, compte tenu de la perte de confiance envers les banques et les assureurs. Et j'ai voulu choisir un pays géopolitiquement stable, premièrement. Un pays où on avait un bon pouvoir d'achat, puisque quand on est sur un investissement immobilier, il faut s'assurer que les locataires aient la capacité financière de pouvoir payer leur loyer. Et voilà, j'avais fait plusieurs voyages aux États-Unis.
Alors, on a tous en tête, c'est vrai, juste après les subprimes, ces fameux, ces villes fantômes pratiquement, dont certains quartiers de Miami, avec ces condominiums, ces tours incroyables, où il n'y avait plus personne, alors que c'est des endroits extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de charges. Ce sont des choses qui vous ont intéressé, sur lesquelles vous avez fait investir vos clients à l'époque ?
Oui, alors, la stratégie qu'on avait à l'époque, c'était de faire investir les clients sur les tours qui étaient remplies à 80-90%. Parce que la problématique de l'époque, c'est que les flux de financement se sont complètement stoppés. Les banques se sont dédiées d'accords de financement antérieurs. Et donc, les promoteurs immobiliers ne pouvaient plus remplir leurs tours. Donc, je peux même vous citer un exemple d'une résidence où j'ai vendu des appartements qui s'appelle l'Icon Brickell. Qui est juste de l'autre côté de la Miami River, au début de Brickell, à Miami Downtown. Donc la stratégie de M. Lopez, le promoteur immobilier, c'était de construire trois tours, et sa marge, normalement, c'était une tour, vous voyez. Mais il y a eu une désaffection énorme, donc sa stratégie a été la suivante. Il a confié une tour à une grande chaîne hôtelière, et ensuite, comme il est originaire d'Amérique du Sud, il a eu l'idée de génie de donner trois appartements à Jennifer Lopez. En contrepartie, elle a fait la promotion de son programme, l'Icon Brickell, qui était décoré par Stark, d'ailleurs, Cocorico.
Et c'est reparti.
Voilà. Et c'est reparti, et aujourd'hui, c'est une résidence.
Donc vous aussi, vous avez travaillé avec Jennifer Lopez, du coup?
J'aurais bien aimé, mais malheureusement, nos chemins ne se sont pas croisés.
Alors, du coup, c'est vrai que certains ont fait la culbute. Hein. Il y a eu beaucoup de villes américaines comme ça qui étaient complètement décimées par la crise. Et puis finalement, avec le temps, on se souvient de l'épisode des foreclosures, ces ventes par auction, c'est-à-dire ventes aux enchères, ou avec beaucoup d'expulsions. Bon, là, il y a eu vraiment des mauvaises affaires, mais aussi dû au surendettement. Ça, c'est derrière nous. Voilà, on est 10-15 ans plus tard, 2021. Sur quelle ville, aujourd'hui, aux États-Unis, on peut investir? Parce que Miami a bien sûr repris, Las Vegas, Nevada, etc. Sur quelle ville vous allez vous positionner aujourd'hui?
Comme on a tendance de le dire régulièrement, le cerveau de l'être humain est fait pour aller à l'encontre de ses intérêts. C'est-à-dire que les personnes achètent quand les prix sont élevés, que ce soit sur les marchés actions comme sur les marchés immobiliers, et alors qu'il faut acheter quand les marchés sont bas. Quand j'ai commencé à travailler à Miami début 2009, certaines personnes m'ont dit « Mais Franck, t'es complètement fou ». Moi, je suis content parce que mes clients ont fait de grosses culbutes sur leurs acquisitions immobilières à Miami. La grande force de notre structure, c'est d'avoir justement la sagesse d'évoluer et de partir d'une ville et de faire réaliser la plus-value à nos clients. Je citais le baron de Rothschild qui disait que nul n'est jamais mort d'avoir réalisé sa plus-value. Donc nous, on a cette philosophie-là, même si le business est bien en place, même si c'est peut-être la période où on gagne le plus d'argent, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, on doit une sincérité à nos clients. Donc cette sincérité, on l'affiche en partant d'une ville où tout le monde, nous, il y a une demande qui devient énorme, mais les prix ont tellement monté qu'on sait que l'opération financière ne sera pas viable. Donc on a resté 4 ans sur Miami, mais là on n'a pas vendu beaucoup d'appartements, on n'a vendu que 25 appartements en 4 ans, parce que justement les gens intellectuellement n'étaient pas prêts à acheter aux États-Unis.
D'accord.
Et ensuite, il y avait aussi l'autre fait que les taxes foncières sont assez élevées et les charges de copropriété aux États-Unis sont très élevées puisqu'on a des prestations quasi hôtelières. Donc on est monté au nord de Miami, Hollywood, Fort Lauderdale, Boca Raton, où là on a acheté des maisons en dessous de 100 000 dollars avec des loyers de 600 à 700 dollars. Donc on a, à ce moment-là, les investisseurs intellectuellement étaient plus prêts à réaliser ce genre d'investissement. Et là, effectivement, on a fait un petit carton, puisqu'en 4 ans, on a vendu 140 maisons.
Donc ça, c'est le passé. Mais ma question, aujourd'hui, où est-ce qu'on investit? Où est-ce que vont vos clients?
Ben, donc, on a évolué radicalement vers le nord cette fois-ci, puisque la ville qui, aujourd'hui, propose le meilleur couple rendement-risque, c'est Détroit, qui était la...
Detroit,
qui a été la ville complètement massacrée après la crise des subprimes, après la délocalisation de la production automobile. Et en 2013, il y a aussi eu un maire qui a détourné beaucoup de fonds de la ville de Détroit. Contrairement en France, le maire est parti pour 19 ans en prison, enfin l'ex-maire. Et depuis, on a un maire, Mike Duggan, qui fait un travail remarquable, conjugué avec une association de 12 milliardaires qui ont créé le Made in Detroit. Donc ils ont injecté beaucoup d'argent. Ils se sont reposés sur les constructeurs automobiles. L'actualité automobile aujourd'hui est ultra riche à Détroit.
On a ça repart après des années de sinistreuses, effectivement. La ville repart à l'instar effectivement de cette industrie automobile. Il y a des quartiers qui ont été entièrement détruits d'ailleurs pour qu'on a abandonné, enfin qu'on a détruit, c'est des friches. Et du coup, ça a revalorisé l'autre partie du patrimoine qui était plutôt sympathique.
Exactement. Il y a eu plus de 10 000 maisons détruites à Détroit. Le maire Mike Duggan a su raser les quartiers qui ne méritaient pas une rénovation. Et donc, aujourd'hui, on a une ville de Détroit qui surfe sur la nouvelle technologie. Le Grand River, qui est le quartier proche de la rivière Détroit, a été consacré comme le meilleur quartier américain pour la gentrification. On a des milliers de personnes qui arrivent sur Détroit. Les constructeurs automobiles, vous allez entendre parler de Rivian, qui est la contraction de River et Indian. Ça va être le concurrent de Tesla. Ils vont être introduits en bourse dans les jours qui viennent pour 80 milliards de dollars. Donc en France, il y a toujours un petit peu de décalage avec
la formation. On ajoute plusieurs zéros,
voilà.
Effectivement.
Et donc Amazon est un des principaux actionnaires. Amazon prévoit d'acheter 100 000 véhicules dans les 5 prochaines années. Amazon toujours vient... Enfin, je reste le constructeur, après je reviendrai à Amazon. On a Ford qui vient de débaucher le patron de Apple Car. General Motors est considéré comme un des 5 plus gros constructeurs de demain en matière de véhicules autonomes électriques. Et d'ailleurs, la première route dédiée uniquement aux véhicules autonomes électriques a été inaugurée par le maire de Détroit et la sénatrice, dont son nom m'échappe, mais assez connue, qui était pressentie pour être vice-présidente de M. Biden, entre cette route pour les véhicules autonomes électriques entre Detroit et Ann Arbor a été inaugurée il y a un an et demi.
Donc on l'a compris, environnement économique assez florissant, en tout cas complètement en transformation. Moi, ce que je voulais vous demander, Franck Noguès, c'est par rapport à ceux qui nous écoutent justement, puisqu'on est au salon de l'immobilier, comment on fait, parce que ça, à vous écouter, identifier c'est bien, mais il y a des règles, on n'est pas sur le même droit, on n'est pas sur la même monnaie, donc il y a des effets changes, etc. Est-ce que vous vous occupez de tous ces aspects? Comment ça va se passer pratiquement pour ceux qui veulent vous voir, viennent vous voir et disent bah, « Tiens, ça me paraît une bonne idée, j'ai 100 000, 200 000 euros à investir, pourquoi pas diversifier ?»
L'intérêt, c'est d'être gestionnaire de patrimoine à l'origine. C'est-à-dire qu'on est là pour accompagner notre client de A à Z. On travaille avec le plus gros cabinet d'avocats en France qui s'appelle Cabinet Fidal. Et dans le cadre du Cabinet Fidal, je suis allé avec un avocat notamment connu aux États-Unis pour tout monter. Donc on accompagne le client de A à Z. Notre structure monte toutes les opérations de A à Z. On va de l'achat des biens, la rénovation, la gestion des biens, la maintenance, c'est très important, et la revente. Donc ça, déjà, ce sont des francophones qui vous accompagnent pendant toute la durée de votre investissement. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le cadre réglementaire, il est simple. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter avec une société qui s'appelle une LLC, Limited Liability Company. On est à mi-chemin entre la SCI et la SARL. En fait, on a l'avantage des uns sans avoir l'inconvénient de l'autre. L'avantage de la SARL, c'est qu'on est à responsabilité limitée, Limited Liability Company. L'inconvénient, ça serait justement de ne pas pouvoir sortir les capitaux avant d'avoir clôturé un bilan. Et donc, c'est l'avantage de la SCI transparente, c'est de pouvoir récupérer ses capitaux au fur et à mesure de la perception de ses loyers.
D'accord.
Sans avoir à attendre la clôture. Ensuite, une fois que vous êtes en LLC, vous pouvez amortir le bien. C'est comme du LMNP. C'est-à-dire que vous pouvez diminuer de votre base taxable l'amortissement. Donc, ce qui fait que vous allez payer moins d'impôts.
Même s'il est à l'étranger.
Bien sûr.
D'accord.
Même s'il est à l'étranger. Et ensuite, vous rapatriez vos revenus en France. Vous faites une déclaration 2047. On vous fait la première pour vous assister, vous aider, vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, vous reportez l'excédent foncier sur la 2044 et la 2042. Mais depuis 1994, vous avez la convention franco-américaine qui fait que vous constituez un crédit d'impôt qui compense ce que vous auriez payé aux États-Unis. Puisque avant de payer des impôts aux États-Unis, compte tenu de cet abattement, il faut commencer à avoir 3-4 maisons.
D'accord. Du coup, on a compris, hein, c'est un investissement clé en main. On est accompagné à chaque étape. Pour ceux qui souhaitent justement se rapprocher de vous, on va se reciter Franck Doguest, donc l'immobilieraméricain.com, en un mot, c'est bien ça. Vous êtes basé à Marseille,
à Paris, rue de Provence,
et à Paris. Donc voilà, nos auditeurs ont toutes les clés en main pour étudier cette piste de diversification qui est très intéressante et prometteuse au niveau patrimonial. Merci Franck Doguest, je rappelle que vous êtes président de l'immobilier américain et à très bientôt sur notre antenne.
Merci.
Le Salon de l'immobilier de l'investissement de Paris, du 8 au 10 octobre 2021, au Carrousel du Louvre, sur Radio Immo.